Les gens ne savent pas nécessairement faire la différence, enfin les gens, le grand public, la différence entre le classicisme et l'académisme. Il y en a un qui est un essoufflement, parce que justement, on va dans, il y a quelqu'un qui trouve quelque chose de chouette, de bien, de positif, et puis tout le monde va le recopier, mais pas le rebondir dessus, pas l'interpréter. Voilà, c'est une espèce de copier, on arrive dans une dégénérescence après du dessin, on a perdu les origines, on a perdu la qualité de l'origine et pour arriver à quelque chose d'appauvri. Alors que dans l'autre partie, ben justement, là, y a des codes, il y a du souffle, voilà, c'est plus créatif, tout en étant dans une espèce de convention. Il explique ça, voilà. Oui, d'accord. Ben, quand il en parle, pour moi, c'est lumineux.
Alors, on n'en parle pas de ça dans le livre, mais ce côté essoufflé, c'est amusant parce qu'on pense tout de suite au journal de Spirou, les années 70,
Ah oui.
où ben, il y avait du, avec des gros guillemets, du sous-franquin qui.
Ben oui.
Et le côté essoufflement, c'était un très très bon exemple, ça.
Oui. Et justement, d'abord, c'était voulu par l'éditeur qui voyait que Franquin, ça marchait. Donc, qui disait ou sous-entendait que ça serait bien que les jeunes auteurs fassent du Franquin. Et combien de fois il a dit à des auteurs, ah, si vous dessinez comme Franquin. Bravo, merci. Donc ça a éteint une personnalité parce qu'en plus, voilà, c'était souvent des auteurs qui avaient envie d'entrer dans le journal et qui étaient prêts à tout pour entrer dans le journal. Il y a l'exemple de Remacle, par exemple, qui a été rattrapé par le col par Maurice Rosil, directeur artistique, parce que il faisait une série qui s'appelait Bobos, une petite série animalière. Et Rosie voyait que dans la marge, il n'arrêtait pas de dessiner des pirates. Il lui dit, mais pourquoi tu dessines Bobos? Tu vois bien que ça ne marche pas, que tu n'y arrives pas, fais des pirates et tout. Et Remarque lui dit, oui, mais j'ai remarqué que Monsieur Dupuis aime beaucoup les séries animalières. Oui, mais Remarque n'était pas Machereau. Voilà, Machereau a fait son truc et ça fonctionnait, c'était formidable. Mais Remarque, lui, son propos, c'était les pirates. Et donc, après cette discussion, Rosy lui a dit, mais fais quelque chose avec les pirates, montre-moi. Et il a fait Barbe Noire, il a trouvé sa voie. Donc voilà, il y avait cette espèce de consanguinité encouragée par l'éditeur qui n'était pas heureuse. Et la génération des auteurs comme Franck P., justement, eux, ils ont voulu rentrer dans l'art, dire, attention, là, Franquin, Peyo, Tillieux, tout ça, c'est formidable, mais nous, on a autre chose à dire. Voilà, c'était, il y avait une question de génération aussi parce que il y avait 25 à 30 ans d'écart entre les deux. Donc c'est aussi, c'était pas l'enfant qui veut tuer le père, c'est l'enfant qui avance, qui a retenu les leçons du père et qui veut se les approprier et faire son propre chemin à lui. C'est pas le fils du cordonnier qui reprend la boutique de son père. On aboutit à quelque chose d'horrible où la passion est perdue. Le père a peut-être fondé sa cordonnerie parce qu'il était passionné par les semelles, mais le fils, il a le droit d'avoir envie d'autre chose et de faire des chaussures sur mesure ou d'être marcheur, d'utiliser les chaussures de son père pour marcher, faire son propre chemin. Voilà, c'est la génération de Franck P. avec Isler, avec Jean-Marie Brouillère, tous encouragés par Martens quand même, Westerlin, voilà, ils ont transcendé, c'est ça qu'on dit, ils ont transcendé l'héritage de Maurice, de Franquin, de Peyo. Et c'était évident pour Franck P. du coup qu'il s'inscrive dans cette tradition-là et qu'il tienne le discours qu'il tient aujourd'hui, 50 ans plus tard, il est cohérent.